Studio Tamani, voici nos informations en français.
8h à Bamako et partout au Mali, vous écoutez Studio Tamani, c'est l'heure de la matinale, voici le sommaire. L'Union nationale des travailleurs du Mali rompt le silence. La centrale syndicale des travailleurs accuse le gouvernement de ne pas respecter ses engagements. Parmi ceux-ci, la relecture de certains décrets relevant de l'administration du Code du travail. Vacciner 62% de la population malienne, c'est l'objectif d'une nouvelle campagne de vaccination contre le coronavirus lancée hier à Bamako. Pour y arriver, plus de 100 000 doses du vaccin Pfizer sont mises à disposition. 4 mois que le Mali est sous embargo de la CEDEAO, du sud au nord en passant par le centre, des populations affirment s'en sortir difficilement. Elles souhaitent un retour à la normale. Tout de suite, le développement de ce titre avec Sekou Gadjigo, Mamadou Ouattara assure la mise en onde. Mesdames, Messieurs, bienvenue. L'Union nationale des travailleurs du Mali, UNTM, hausse le ton face au gouvernement. La centrale syndicale a fustigé le non-respect par l'équipe de Choguel Kokala Maïga des promesses tenues aux travailleurs. C'était dans une correspondance adressée à celle-ci vendredi dernier. Dans cette lettre, la centrale syndicale regrette également la non-priorisation du règlement des problèmes des compressés des retraités par anticipation. Maman Babakunta nous en dit plus.
Dans ce document, le secrétaire général de l'INTM a déploré les propos du Premier ministre dans lesquels il avait dit lors de son interpellation devant le CNT que les problèmes de compressés et de retraités par anticipation ne sont pas prioritaires pour le gouvernement. Pour Yacouba Katilé, ces propos de Choguel Kokala Maïga attristent le monde du travail parce que celui-ci avait ordonné le paiement des droits de compressés et retraités par anticipation juste après sa nomination. En plus de ces dossiers, l'INTM accuse les chefs du gouvernement d'avoir refusé, entre autres, la relecture du décret fixant les conditions d'emploi du personnel de l'administration relevant du Code du travail, le rétablissement dans leurs droits des responsables syndicaux. Pour l'INTM, le Premier ministre Choguel a manqué de patriotisme en n'aidant pas les salariés maliens à faire face à la charte de la vie. La centrale syndicale met en garde le Premier ministre et l'explique, je cite, « Le syndicalisme peut entrer dans le jeu politique national. Toutes les conventions et résolutions les consacre, donc faites attention. » Fin de citation. Toutefois, l'INTM a réaffirmé dans le texte son soutien au président de la transition, Assimi Goïta.
Des observateurs politiques considèrent cette correspondance adressée au chef du gouvernement comme une mise en garde. Pour le juriste Mamadou Guissé, une déclaration de guerre n'est avantageuse ni pour l'UNTM ni pour le gouvernement en ce moment. Toutefois, il estime qu'une centrale syndicale est toujours dans son droit de revendiquer ou de rappeler. Docteur Mamadou Guissé, professeur à l'université de Bamako, est joint au téléphone par Maman Babakunta.
Au moment où ce pouvoir s'est installé, avec l'avènement du nouveau Premier ministre, l'Union nationale des travailleurs du Mali avait effectivement signé un moratoire pour dire que toutes les revendications seront suspendues, mais que l'Union va rester en veille et observer non seulement le comportement du nouveau gouvernement, mais également le respect des accords qui sont signés. L'UNTM est dans son rôle essentiel de rappeler au gouvernement les souffrances et les efforts consentis par le peuple malien dans le contexte actuel, les difficultés que les travailleurs actuels vivent et que les travailleurs compressés ou licenciés ont vécu. Donc pour moi, il ne s'agit pas d'une déclaration de guerre, mais plutôt d'un rappel et surtout d'une mise en garde.
Toutes ces informations sont à retrouver sur nos réseaux sociaux, notamment notre page Facebook ou notre compte Twitter. 8h04 à Bamako. Malgré les tensions entre le Mali et certains pays européens, le partenariat restera stable entre les deux parties et il n'y aurait pas rupture. C'est l'assurance donnée par l'ambassadeur de l'Union européenne au Mali. C'était lors de la célébration de la Journée de l'Europe 2022, une déclaration faite à un moment où les relations sont tendues entre le Mali et certains de ses partenaires européens. Les détails dans ce reportage de Mohamed Ali Ag Ali.
Cette journée consacrée à l'Europe est aussi un cadre de valoriser les partenariats entre le Mali et l'Union européenne, selon l'ambassadeur de l'Union européenne. Pour Bartovry, les Sahel et le Mali sont des voisins naturels à l'Europe et cela ne changera pas.
Nous allons continuer cette année à travailler sur la sécurité alimentaire, sur le retour de services publics sur tout le territoire du Mali, sur des questions d'infrastructure. Les missions IUTM et ECAP, elles restent en place. Et leur mandat reste le même. Certes, il y a certaines limitations au niveau de notre capacité.
Un partenariat très dynamique, dira ce coup, dit Gaoussou Cissé, ambassadeur Europe au niveau du ministère des Affaires étrangères. Selon lui, l'Europe est un partenaire qui peut aider le Mali à traverser cette crise multidimensionnelle.
Nous attendons plus de solidarité de l'Union européenne pour nous accompagner à traverser cette période difficile. Nous poursuivons notre dialogue avec la CEDEAO pour aboutir à une feuille de route qui soit une feuille de route acceptable. Au terme de la feuille de route, seront organisées des élections qui soient des élections crédibles, transparentes.
Ces échanges ont-ils lié à l'amphithéâtre de l'ex-ENA? Les représentants de l'Union européenne ont encouragé les étudiants maliens ainsi que leurs professeurs à adhérer au projet. Programme Erasmus Plus, un programme qui donne la possibilité des bourses d'études, l'échange d'étudiants et d'universités.
Mohamed Ali Ag Alida, je vous le disais dans le titre, plus de 100 000 doses du vaccin Pfizer seront désormais introduites dans la campagne de vaccination contre la COVID-19 au Mali. Son lancement a eu lieu ce lundi 9 mai en commune 1 du district de Bamako. L'objectif recherché avec cette campagne est de pouvoir vacciner plus de 13 millions de personnes, soit 62% de la population malienne. Les partenaires sanitaires du pays, dont le Japon, l'UNICEF et les États-Unis, étaient présents à la cérémonie. Aïssata Diarra.
Ces dons des États-Unis permettra d'élargir la cible aux personnes âgées de 12 ans et plus, y compris les femmes enceintes et allaitantes. L'ambassadeur du pays donateur, Denis B. Ankis, rassure sur l'efficacité du vaccin dont les matériels de conservation ont été offerts par le Japon.
C'est la première fois que le vaccin Pfizer arrive au Mali. C'est grâce aux efforts de plusieurs partenaires. Je sais avec Pfizer, c'est peut-être l'un des plus efficaces, mais avec les conditions très exigeantes en termes de chaîne froide.
Les vaccins seront disponibles dans les 6 communes de Bamako et autres endroits. C'est là pour permettre à la population de se faire vacciner, a déclaré Mme Djaminatou Sangaré, ministre de la Santé et du Développement Social.
Il s'agit d'une vaccination à 2 doses avec 28 à 42 jours d'intervalle entre les 2 doses. Pour atteindre ces cibles, 3 stratégies classiques seront utilisées dans la structure de santé au niveau des villages, hameaux, quartiers, structures administratives, ambassades, sociétés, entreprises, dans les camps de déplacés internes et le vaccinodrome. D'autres stratégies comme la stratégie porte-à-porte et la stratégie d'opportunité.
Selon les autorités sanitaires de nos jours, plus de 30 000 personnes ont été atteintes par la COVID-19 avec plus de 730 décès. Et à la date du 4 mai 2022, 1 075 125 personnes ont été complètement vaccinées, soit 10,65% de la population.
Parlons à présent du lancement de ce projet de renforcement des capacités des femmes vectrices de changement en abrégé RECAFEVEC. C'était hier matin à l'école de maintien de la paix EMP. L'objectif est de former les femmes sur la gestion des projets et mobilisation pour la paix et le développement au Mali. Plusieurs femmes du nord, du centre ainsi que du district de Bamako participeront aux différentes sessions de formation. Mélissa Souvik est la deuxième secrétaire de l'ambassade de Norvège au Mali. Elle est au micro de Sita Sidibé.
Et c'est un projet qui est mis en œuvre avec l'EMP. C'est financé par la Norvège. Et ça va être dans toutes les régions au Mali, avec quelques communautés qui ont été identifiées. Donc pour la Norvège, l'égalité des genres et la promotion des processus politiques inclusifs sont parmi nos priorités dans notre coopération bilatérale avec le Mali. Donc quelques projets ou quelques initiatives qui travaillent dans ce domaine, ce que nous finançons, c'est l'implémentation et l'inclusion et participation des femmes dans la CSA. Et donc ce projet, RECAFEVEC, c'est en fait une contribution importante dans ce domaine d'intervention que nous finançons.
D'une session de formation à une autre, cette fois-ci, celle de la Fondation Hirondelle, adressée aux journalistes et aspirants hommes et femmes de médias, qui se poursuit à l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, UCAO. Démarrée ce jeudi 5 mai, l'objectif de cette session intense de 2 semaines est de donner une base solide aux jeunes qui veulent faire carrière dans le domaine du journalisme. Dramane Maïga a assisté à une partie de la formation, suivant son reportage.
En tout cas, bravo pour la proposition. Mais maintenant, il faut creuser.
Nous sommes en pleine conférence de rédaction. L'animateur de cette session cadre les discussions entre une quinzaine d'étudiants. Marie-Thérèse Koulibaly, étudiante, est la secrétaire du jour.
Avec l'aide de M. Martin, tout de suite, je vais mettre au propre les informations que j'ai récoltées, les reporters qui doivent partir, sujets dont ils doivent parler, sous quel angle ils doivent le traiter.
À quoi consiste cet apprentissage? Martin Fay, responsable de la formation, nous explique.
Les 3 premiers jours, c'était une session de révision. La journée de samedi, c'était une journée technique, maniement des équipements. Aujourd'hui, nous entrons dans le vif du sujet, même s'ils ne sont pas encore expérimentés. Ce métier s'apprend sur le terrain.
En plus de la théorie, l'exercice pratique du métier de journaliste des radios est bien accueilli par les participants.
La semaine passée, c'était ma première fois de parler devant un micro.
On est en train d'acquérir de nouvelles connaissances à radio.
La formation est plus intéressante qu'elle en classe.
On ne connaît jamais assez, il faut toujours se former.
Rappelons que ce centre n'est pas à sa première formation. Il est le fruit d'un partenariat entre la Fondation Hirondelle et l'UCAO. Ces sessions sont ouvertes aux étudiants, mais aussi aux journalistes professionnels.
Le reportage de Dramane Maïga à 4 mois des sanctions de la CEDEAO contre le Mali. Les populations à l'intérieur du pays crient leur ras-le-bol. Selon elles, la situation a fortement impacté les actions humanitaires dans certaines parties du centre et du nord du pays. Les habitants de ces zones demandent aux autorités une solution rapide. Le reportage de Issa Oumar Togola.
Presque toutes nos activités sont au ralenti à cause de la sanction de la CEDEAO, regrettent certains habitants de Gundam dans la région de Tombouctou. Ils souhaitent un retour à la normale.
Les flambées des prix ne font qu'augmenter. Et cela quand même a beaucoup marqué les populations.
Tout ce qu'on a comme activité, on dit qu'il faut attendre jusqu'à ce que l'embargo prenne fin. Notre souhait, c'est qu'il y aura une solution plus vite que possible.
Selon les chefs secteur agriculture de Bankas, face à ces sanctions, ils assistent à une situation inédite. Alaï Guindo affirme que la population s'en sort très difficilement.
Il y a la rareté des denrées alimentaires. Le tout coûte excessivement cher. 35 000 francs les sacs de 1000, vraiment c'est un peu exagéré. Sur le plan sécuritaire, les gens ne parviennent même plus à voyager. Il nous est même impossible d'aller retirer nos salaires au niveau de Mopti. C'est pas du tout facile.
C'est le même constat à Yoroso dans la région de Koutiala. Abdoulaye Goïta, maire de la localité, témoigne que les populations font face à d'énormes difficultés, notamment la hausse des prix des denrées alimentaires.
Ces sanctions, vraiment, on a subi beaucoup de difficultés dedans. Par rapport aux denrées alimentaires, et tout est vraiment monté. On veut vraiment une suite favorable dans tout cela.
En plus des sanctions, les populations déplorent également la situation sécuritaire à travers le pays. Elles invitent les autorités à tout mettre en œuvre pour sortir le pays de cette impasse.
Studio Tamani, financé par les gouvernements de la Suède, du Danemark, de la Suisse, de la République tchèque et par l'Union européenne.
Le reste de l'actualité en quelques brèves. À l'intérieur du pays, un homme d'une 40aine d'années a été grièvement blessé par un inconnu dans la nuit du jeudi au vendredi 6 mai 2022 à Saboussiré, une localité située dans la commune rurale de Hontela, région de Kaï. Selon des témoins, l'assaillant s'est introduit dans la cour de sa victime quand elle dormait sur un mirador. Il lui a asséné plusieurs coups de machette à la tête. Il a été admis au centre de santé de référence d'Oussoubi-Diagna avant d'être évacué à l'hôpital régional de Kaï. L'agresseur est pour le moment introuvable. Une centaine d'artisans et de représentants de services techniques et de collectivités ont échangé samedi dernier 7 mai à Koutiala sur les activités de l'Association des ouvriers professionnels du Mali AOPM. Selon les organisateurs, la rencontre a permis d'informer et de sensibiliser les participants sur l'organisation et la nécessité de travailler à mettre fin à l'immigration des jeunes par la mise à leur disposition de moyens financiers et matériels. Des leaders religieux, des jeunes et des femmes venus des cercles de Gao, d'Ansongo et de Bourem ont bouclé ce lundi matin 9 mai une session de formation sur les techniques de résolution des conflits à Gao. Ils sont chargés à leur tour de former d'autres personnes sur les mesures de prévention et de résolution de conflits dans leurs localités respectives. La rencontre a été organisée par l'ONG Gardet en collaboration avec l'équipe régionale d'appui à la réconciliation de Gao. Elle a duré 3 jours. Et c'est tout pour cette édition qui vous a été présentée par Sekou Gadjigo Mamadou Attara sur la mise en onde. Tout de suite, Juliette Koulibaly sera là pour la version Bamanankan de cette édition. Merci à toutes et à tous. Vous pouvez réécouter ces informations sur notre site studiotamani.org ou en appelant sur la plateforme Viamo au 37 321. Porte-à-poti, cette affaire où des jeunes filles se livreraient à des pratiques obscènes et malsaines en échange de grosses sommes d'argent à Dubaï. L'affaire qui défraye la chronique suscite de nombreuses interrogations au Mali, parmi lesquelles l'éducation des filles dans nos sociétés. Au Mali, certains traditionalistes et sociologues imputent cette dépravation de mœurs à la démission des parents et à l'appât de gains faciles. Notre reporter Fatih Attara s'est intéressé au sujet. Voici son reportage.
Affaire porte-à-porte, c'est le sujet qui fait débat en ce moment dans le pays. C'est aussi le cas dans ces grains à l'université de Bamako. Ces jeunes gens estiment que rien n'explique cette pratique. Elle ternit, selon eux, l'image de toute l'Afrique.
En tant que dame, faut te valoriser en travaillant dur. Du jour au lendemain, ils deviennent très célèbres comme ça. Tu ne sais même pas par quelle magie.
Je ne pensais pas qu'un être humain peut aimer l'argent jusqu'au point de vouloir faire ce genre de choses. Mais heureusement, ils ont enlevé le voile. Tout le monde connaît la réalité.
Si tu veux avoir de l'argent, il faut travailler.
Elles ont rabaissé l'image de la femme.
Pour ne pas être esclave de l'argent, il faut travailler dignement.
Des sociologues pensent que c'est l'effet de la mode et l'appât des gains faciles qui sont à l'origine du phénomène. Docteur Mohamed Abdoulaye Haidara, enseignant-chercheur à l'école normale supérieure de Bamako.
Il y a le côté lucratif lié au fonctionnement général des sociétés humaines actuelles qui révalorise de plus en plus la capacité d'une personne à pouvoir se procurer des biens rares.
C'est la montre à suffisance que les parents ont démissionné par rapport à l'éducation de leurs enfants, souligne le traditionaliste Bala Konaté.
Cela est dû à la démission des parents. Personne ne conseille plus son enfant à respecter les mœurs. Auparavant, les parents, leurs frères et voisins éduquent de façon collective un enfant. Mais de nos jours, chacun pour soi, Dieu pour tous. Et si tu te hasardes à gronder un enfant, son parent risque de te traduire en justice.
Cette situation n'est pas sans conséquence, regrette le sociologue Mohamed Haidara.
La perte même de la morale, que ceux qui étaient considérés comme étant mauvais dans le temps, considérés aujourd'hui comme étant une revalorisation même de la personne. Parce que la personne n'est plus jugée à partir de la probité morale, mais plutôt à partir de ce qu'elle gagne.
À la question de savoir comment mettre fin au phénomène, des traditionalistes font des propositions. Bala Konaté.
Il est essentiel que nous revenions à nos valeurs et cultures. Et c'est seulement de cette manière que nous pourrions changer la donne. Chaque parent doit veiller à ce que son enfant soit respecté de nos traditions, car c'est une affaire de génération.
À noter que beaucoup d'érudits de la confession musulmane et chrétienne, tous s'accordent sur l'interdiction du phénomène.